Québec. Vous écoutez Mon Grain PM.
Quand on parle de 40 % même 60 % à Montréal, où on exige la connaissance de l'anglais, là, c'est pas acceptable et c'est préoccupant. J'ai déjà annoncé qu'on va on va proposer des mesures pour bonifier la loi 101.
Voici Jean-Luc Mongrain.
Cette déclaration suit évidemment que l'Office québécois de la langue française a présenté les résultats d'une enquête sur les exigences linguistiques auprès des entreprises, des municipalités, des arrondissements de Montréal. Les chiffres sont un peu effarants, font un peu peur. Pauline Marois est ex-premier ministre et présidente de la campagne de financement de la Fondation pour la langue française. Alors, elle n'est peut-être plus politiquement active, mais elle est certainement engagée pour le bien-être de sa collectivité et le respect de la langue française et sa promotion chez nous. Madame Marois, bonjour. Comment allez-vous?
Bonjour, M. Mongrain. Je vais très bien.
Formidable.
Malgré tout les événements que l'on vit, j'ai la chance d'avoir une famille formidable, un conjoint extraordinaire et puis de vivre dans un milieu un peu hors de la ville, ce qui facilite un peu toute cette réalité du confinement et de la pandémie. Voilà.
Vous avez raison. Dites-moi, cependant,
oui.
Il y a autre chose qui se passe et c'est l'attrition de l'utilisation du français dans le monde du travail. C'est quand même assez sérieux parce que, comme je le disais, c'est une des pierres angulaires de la formation politique que vous avez dirigée, mais aussi c'est une problématique de société pour la survie de ce que nous sommes culturellement et sociologiquement.
Vous avez totalement raison. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me suis engagée auprès de la Fondation la langue française à présider cette campagne de financement pour nous permettre d'avoir des outils qui sont dans le fond, des outils de la société civile, hein, pour faire la promotion du français partout, dans tous les milieux, sur toutes les tribunes. D'ailleurs, notre fondation est complètement apolitique. On y retrouve des gens qui viennent autant des milieux fédéralistes que des milieux souverainistes. Mmh. C'est assez formidable. Bon, maintenant, oui, c'est très inquiétant. Et moi, dès l'année, il y a 2 ans, il y a eu un rapport qui a été publié. En fait, il a été publié en avril 2019. Mais dès ce moment-là et un peu avant, je me rendais bien compte de la détérioration de l'utilisation du français, en particulier à Montréal, sur l'île de Montréal. Mmh. Et le rapport de l'Office est venu confirmer ça là, d'une façon un peu plus qu'inquiétante, si on veut, et dramatique même. Et le dernier sondage vient confirmer qu'un pan en particulier du français devrait nous inquiéter, de l'utilisation du français devrait nous inquiéter. Pourquoi exige-t-on c'est-à-dire la connaissance de l'anglais pour des emplois où probablement on ne sera jamais appelé à parler anglais? Puis de toute façon, on le serait qu'il y a souvent des façons de faire dans les entreprises qui font en sorte que une ou deux ou trois personnes sont particulièrement bilingues et peuvent assumer les exigences posées par une clientèle ou posées par un besoin particulier. Je suis estomaquée de voir ces résultats.
Madame Marois, on veut être concurrentiel, compétitif dans un marché élargi, la mondialisation. Il est impensable aussi, et c'est là que je pense qu'il y a une pierre d'achoppement. Il y a une différence entre travailler en français au travail, être au travail en français comme langue de travail, mais la connaissance de l'anglais est devenue essentielle.
Oui, la connaissance de l'anglais est devenue essentielle pour certaines activités, mais pas nécessairement pour toutes les activités. Quand vous êtes dans le domaine des services, que vous avez affaire à une population autochtone, finalement, la population québécoise en général, vous n'avez pas nécessairement à posséder l'anglais. Si vous êtes dans un commerce sur l'île de Montréal et que vous savez qu'il y a une certaine clientèle anglophone qui aura besoin d'être aidée ou servie en anglais, il y a des gens dans la boutique ou dans le magasin qui vont pouvoir le faire sans que ce soit nécessairement tous les employés. Et ça, c'est à mon point de vue, c'est pas exact. Parce que quand on regarde en Europe, il y a quoi? Plus de 25 pays qui sont membres de l'Union européenne. On traduit à peu près tout ce qui se dit, s'écrit pour s'assurer que tout le monde, toutes les personnes membres de la communauté ou de l'Union européenne puissent avoir accès. Alors, je trouve que c'est un peu exagéré. Oui, on en a besoin dans certaines fonctions, pour certaines tâches qu'on a à accomplir, surtout lorsqu'on est dans l'international, si on veut, on a affaire avec l'international, mais sinon, à mon point de vue, c'est une exigence exagérée.
Est-ce que c'est un mouvement irréversible? Comment contrôler cela et comment peut-on demander à une génération montante, je le vois et on le voit là, et je ne vise pas cette catégorie d'âge-là comme étant responsable ou coupable, mais il y a une anglicisation évidente de tous les termes ou de toutes les façons de communiquer maintenant. On ne place plus un sujet, on poste, et etc., etc., etc. Donc,
on adresse un problème à chaque fois, les cheveux me dressent sur la tête.
Oui.
Non, oui, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Il y a des anglicismes, d'une part, dans notre langue, et en plus, on utilise des expressions anglaises. Et ça, bon, là, je ne veux pas, encore une fois, faire de politique. J'ai dit que je n'en ferai pas.
Ah, c'est vous qui commencez. Moi, je vous avais dit qu'on n'en ferait pas.
le gouvernement précédent a été très négligent et très laxiste à cet égard. Lorsqu'on a été pendant 18 mois au pouvoir, nous avions proposé un changement assez majeur à la loi 101, entre autres que les petites et moyennes entreprises aient une obligation d'avoir des certificats de francisation. Et justement, on voulait changer les règles quant aux obligations que font les entreprises auprès de leurs employés d'avoir une connaissance de l'anglais pour qu'ils puissent être embauchés. Alors, il y a des changements législatifs qui peuvent être faits, mais d'autre part, et c'est là que la Fondation pour la langue française peut jouer un rôle significatif et important, il faut valoriser notre langue, se rappeler comment elle fait partie de ce que nous sommes, elle est ce que nous sommes, la fierté qu'on a sur un territoire comme le Québec de pouvoir préserver cette langue qui traduit ce qu'on est aussi avec nos mots, avec nos artistes, avec nos façons de nous dire, de nous exprimer.
Est-ce que ça se peut que ce soit un enjeu qui appartienne à une autre génération et que cet enjeu-là ne soit plus significatif pour une génération qui joue évidemment dans la multiplicité des avenues, l'arrivage de gens différents qui n'ont pas le même sentiment d'appartenance, de sorte que comment on fait pour dire à un jeune de 22 ans, « Listen, boy, do something, speak French.
» Oui, mais c'est l'enjeu fondamental de l'existence des nations. Est-ce qu'un Danois va renoncer à être Danois et à sa langue? Est-ce que, pourtant, là, ils ne sont pas nombreux à parler le Danois. Là,
un peu moins entourés que nous.
Tandis que le français, on parle de 300 millions de locuteurs, donc de personnes qui parlent français à travers le monde. Alors, moi, je crois qu'il faut revenir aux bases fondamentales. Est-ce qu'on renonce à ce qu'on est? Est-ce qu'on renonce à un État francophone en Amérique du Nord qui a, par sa culture, sa façon d'occuper son territoire, un apport considérable à la culture universelle? Pensez à tous nos écrivains qui rayonnent à travers le monde, pensez à tous nos artistes. D'ailleurs, ce que je trouve formidable, c'est quand je vois apparaître des jeunes rappeurs qui rappent en français, des jeunes femmes qui font du rock, qui font des chansons très audacieuses, finalement, en français. Alors, c'est la fierté qu'il faut retrouver, c'est la sensibilité au fait de ce qu'on est, de nos racines. Et puis, même quand on a 20 ans, il faut bien se rappeler qu'on habite quelque part et que quelque part, on pose notre valise un jour et puis on dit « on est d'ici ». Ici, on parle français. Il faut retrouver cette passion de la langue, ce plaisir à la parler.
Si le gouvernement...
Je suis d'accord avec vous, il faut travailler auprès des jeunes.
Oui, tout à fait.
Une des grandes, grandes préoccupations à la Fondation, c'est la promotion auprès des jeunes pour qu'ils s'approprient la langue.
Alors, vous m'avez ouvert la porte. Si le gouvernement précédent n'a pas fait ce qu'il fallait, croyez-vous que celui qui est là avec ses racines, qui sont pas loin de la famille péquiste à l'origine, vont être plus agressifs.
On sent beaucoup de bonne volonté de la part de M. Jeannin Barrette. Il l'a encore dit, j'écoutais une entrevue ce matin. Mm-hmm. Il est très orienté, très décidé pour changer un peu les choses. François Legault, hier, a été aussi très clair, a été un peu choqué de ce qu'il apprenait en voyant les statistiques. Alors, moi, j'ai confiance qu'il va se passer quelque chose, que ce gouvernement-là va agir pour remettre la langue au cœur du débat. Et tous les gouvernements, à mon point de vue, à Québec, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, auront toujours à se préoccuper de cette réalité-là. Pourquoi? Parce qu'on est une minorité en Amérique. On est une minorité dans un grand ensemble canadien. On n'a pas choisi la voie de la souveraineté ou de l'indépendance. On reste actuellement une minorité et une minorité a toujours besoin d'être accompagnée, soutenue, qu'il y ait des mesures qui vont lui permettre de se protéger, mais aussi de continuer à se développer. Parce que c'est pas un repli sur soi. Hein. S'il y a quelque chose qui, moi, me choque, c'est quand on nous dit que c'est un repli sur nous-mêmes. Au contraire, c'est plutôt la possibilité de participer au monde avec nos différences.
Comment est-ce qu'on va être coercitif? C'est une solution d'être coercitif?
Bon, c'est pas nécessairement une solution. Moi, je pense qu'il faut toujours essayer les politiques qui vont être des politiques qui vont mobiliser, qui vont amener les gens à participer, à s'impliquer, etc. Mais à partir d'un certain moment, parfois, il faut l'être. Mais sur la question, par exemple, revenons au sujet principal, sur la question de l'obligation de connaître l'anglais dans l'entreprise, sur ça, moi, je pense qu'il peut y avoir des règles très clair d'établi et que l'entreprise ait à faire la preuve.
Qu'ils ont besoin absolument de cela.
Ben, voilà, ils ont besoin absolument. Puis c'est vrai dans le secteur public aussi, hein, parce que c'est pas toujours évident. Puis je regarde les municipalités, c'est pas toujours... dans leur cas aussi, on voit qu'il y a un nombre important de municipalités qui demandent la connaissance de l'anglais pour obtenir un emploi.
Exact. Donc, on a un gros travail à faire et je pense qu'il va falloir une conscientisation vraiment large et collective parce que, honnêtement, cette attrition-là, dû aussi à notre poids relatif qui semble vouloir être à la baisse dans ce grand pays canadien, il va falloir travailler très fort. Merci beaucoup, madame, de votre disponibilité.
Merci beaucoup, monsieur Mongrain. Et puis, c'est pour ça que je suis engagée dans la Fondation de la langue française pour faire la promotion de notre langue et faire en sorte qu'on soit fiers de parler français au Québec.
Bien, merci beaucoup de votre engagement, madame Marois. Et bonne continuation. Saluez toute la famille également.
Merci, je n'y manque pas. Au revoir.
Au revoir. C'était Mme Pauline Marois, évidemment, qui, aujourd'hui, continue de s'engager, évidemment, dans la campagne de financement de la Fondation pour la langue française. Elle a réagi, donc, à ce sondage mené par l'Office québécois de la langue française sur l'utilisation de l'anglais dans nos commerces, sociétés, gouvernements municipaux et territoriaux. On va s'arrêter pour une pause, mais je vais prendre vos appels sur ce fait de la langue française. Croyez-vous que c'est une affaire terminée? Est-ce utile de se battre pour ça? 514-790-9850 si vous êtes de Montréal et de la région immédiate ou encore à l'extérieur de la grande région de Montréal au 1-866-790-9850.
Des sujets qui vous interpellent. Voici Jean-Luc Mongrain.
Est-ce important ou encore essentiel, si vous préférez, de parler en anglais pour réussir dans le milieu des affaires au Québec? Jérôme est avec nous. Bonjour, Jérôme.
Bonjour, monsieur. Oui, effectivement, mais pour moi, d'abord, le français devrait, la qualité du français, on devrait pouvoir acquérir le français d'une meilleure façon. C'est l'outil de la pensée. Donc, c'est toutes les nuances de la vie qu'on devrait pouvoir exprimer. Et ça nous manque parce que de plus en plus, l'anglais s'insinue, la forme de pensée anglaise s'insinue à tous les niveaux, là, des commerciaux, des publicités, des reportages, on saute l'impératif, on sert de l'infinitif, le subjonctif, on connaît plus. Je me demande si les gens seraient capables d'entendre du théâtre de Marivaux. Combien de temps encore on va pouvoir lire Hugo et comprendre? C'est une question, encore une fois, de qualité de vie des gens, de nuances de la pensée. Ça demande d'efforts. Évidemment, qu'est-ce qu'il n'en demande pas? Mais toute la vie dans les nuances. Tu sais, on dit souvent, par exemple, si je peux me permettre rapidement,
allez-y.
On dit 20-20, mais on ne disait pas 20-20, 13, 28, 21, 20-yen. Et c'est cette forme de pensée anglaise-là qui rentre peu à peu et par manque d'effort, par manque de volonté, bon, on s'en fout, ben, les gens facilement sautent et bientôt, j'ai 50, 60 ans, je sais pas, le français va avoir de la misère. Oui, monsieur?
Je trouve intéressant, Jérôme, si vous me permettez, de faire ce regard vers l'arrière parce que la formation pour l'apprentissage du français serait, si c'était mieux fait, mieux intégré dans la personnalité des étudiants, une garantie de sauvegarde. On aimerait davantage notre langue. On saurait que c'est notre langue. On saurait que c'est lié avec notre existence, notre culture et notre histoire. Ça aussi, ça fait des assises plus importantes.
Pensez à tout ce qui manque aux gens, à tout ce que les gens n'ont pas accès parce qu'il manque cette qualité ou cette profondeur-là du français. Tout ce qui est poésie, tout ce qui est...
Sans l'antagoniser, parce que le temps file, j'ai une autre personne qui attend en ligne, sans antagoniser l'apprentissage d'une autre langue, que ce soit l'anglais, que ce soit l'espagnol, que ce soit le chinois, etc., etc., le mandarin.
J'en parle quatre, moi. Et je me toute ma vie, et je me bats encore contre ça, je me travaille encore ça. Je vous laisse là-dessus, monsieur, bonne journée.
Merci, au revoir, Jérôme, merci beaucoup de cette réflexion. Chantal est avec nous, bonjour Chantal.
Bonjour, monsieur Mongrain.
Alors, est-ce que c'est important ou essentiel pour gagner bien sa vie dans le monde des affaires au Québec de parler anglais?
Je vous dirais probablement que oui, mais probablement qu'au Québec, je trouve ça désolant par rapport qu'on perd un peu de notre langue. Et pour travailler pour une compagnie de courrier dont je n'aimerais pas le nom, après 23 ans d'ancienneté, je me débrouille un peu, mais je ne suis pas bilingue. Puis on s'entend que pour être bilingue, ben faut parler beaucoup en anglais. Et quand les compagnies sont juridiction fédérale, ben on n'a pas cette possibilité-là de pouvoir... excusez-moi le francisisme, le apprendre sur le tas, comme on dit.
Oui.
Donc, on peut pas apprendre à ce moment-là. Donc, ça nous coupe énormément de postes. Puis, c'est ça. Après 23 ans d'ancienneté, ben, le seul poste unilingue français qu'on m'offrait, c'est sur les téléphones. Donc, moi, je parle très, très, très rarement au téléphone. Donc, passer 7h30 par jour à ne faire que ça.
Donc, ne pas parler anglais suffisamment, oui. Ça vous a coupé des possibilités d'avancement.
Exactement, et je suis pas la seule dans cette position-là, malheureusement. Donc, après beaucoup d'ancienneté, si on ne parle pas anglais et on passe un examen,
vous restez où vous êtes.
on reste où ce qu'on est, ou on s'en va, on n'a plus rien.
Merci beaucoup, Chantal. Je parle à qui maintenant? Carole, bonjour Carole.
Oui, bonjour. Moi, je voulais dire que les compagnies internationales, je comprends qu'on ait besoin de l'anglais, mais pas les compagnies plus locales. Là, c'est une exigence qui est absolument trop. Puis dans votre introduction, vous demandiez si le français était malade. Ben moi, je trouve qu'il est malade autant chez les individus qu'au niveau national. On écoute juste les politiciens, puis on écoute les journalistes, particulièrement à LCN. Ça fait des fautes à tour de bras, adresser un problème, vous allez nous partager vos photos, tous des trucs qui se disaient pas avant, bon matin, puis c'est rendu monnaie courante, là, les gens massacrent la langue puis ils s'en rendent même pas compte, puis moi je trouve ça honteux de les gens qui font de la télé, les politiciens comme Justin Trudeau, qui est même pas capable de faire trois phrases de suite.
Mais c'est un anglophone, Justin Trudeau.
Bah, oui, qui se prétend québécois francophone, là. Mais je veux dire, il est quand même le premier ministre d'un pays supposément bilingue. Et puis, il n'est même pas fichu de
mais de sans faire de cas de personnalité, vous trouvez qu'il y a quelque chose d'insidieux dans notre langue française qui est comme infiltré par des anglicismes ou un manque de vocabulaire, un manque de richesse de vocabulaire qui fait en sorte qu'elle s'assèche, cette langue-là, chez nous, dans l'usage courant.
Oui, puis l'exemple part de haut trop souvent. Et puis, il y a les nouvelles modes aussi, comme la mauvaise utilisation du terme partagé. C'est
oui.
Sûr que ça vient de Facebook.
Merci beaucoup, madame. C'est tout le temps que j'ai. Il faut que je m'arrête pour les informations de 13h. Merci.